Il est 19h30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, nous sommes en direct de Washington. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique. Avec vous ce soir, Claire Morin-Gibourg et Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, à la une ce soir.
Depuis Brazzaville, le président du CNT centrafricain demande de sursoir à la formation du gouvernement.
Mardi 19 août, journée mondiale de l'aide humanitaire, coup de projecteur ce soir sur les ONG maliennes.
Nous attendons plus de 150 000 réfugiés maliens qui sont à l'extérieur, qui sont revenus, et nous assurons leur retour.
Boko Haram profite de l'épidémie d'Ebola pour étendre son champ d'action dans le nord du Nigeria.
Au Bénin, le passage à la télévision numérique est prévu pour dans un an.
Dans ces conditions, le passage de l'analogique au numérique risque de nous rendre encore analphabètes parce que sans poste téléviseur, vous savez que l'on est l'alphabète.
Sans oublier les sports, en fin d'émission avec Bagassi Koura. Mais tout d'abord, le journal. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Bonsoir.
Et voilà qui complique un peu plus les choses en Centrafrique, alors que le pays attend toujours la formation d'un nouveau gouvernement. C'est depuis Brazzaville qu'Alexandre Ferdinand Nguende jette un pavé dans la mare. Le président du Conseil national de transition demande de sursoir à la mise en place d'un nouveau gouvernement dans son pays, estimant que le Premier ministre désigné récemment ne fait pas l'unanimité. Pour rappel, Mahamat Kamoun a été nommé Premier ministre le 10 août en remplacement d'André Nzapayeke pour former ce gouvernement élargi. Écoutons M. Nguende.
La concertation, il faut privilégier le dialogue. C'est pourquoi il serait important de sursoir à la mise en place du gouvernement, à dégager un consensus. Et s'il faut faire des sacrifices pour que le peuple centrafricain puisse vraiment avoir la quiétude, la sérénité.
Alexandre Ferdinand Nguende, le président du CNT depuis Brazzaville.
La délégation centrafricaine a déjà quitté Brazzaville et devrait arriver ce soir à Bangui. Dans la capitale centrafricaine, justement, une manifestation de soutien à la présidente Catherine Samba-Panza a eu lieu. Plusieurs dizaines de jeunes ont manifesté cet après-midi devant le siège du Parlement provisoire. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient de tentative de déstabilisation de la transition depuis Brazzaville. Le point avec Félix Yepassis Zembrou.
Pour les manifestants, le déplacement depuis lundi d'une délégation centrafricaine à Brazzaville cache beaucoup de choses. Ils voient en cela une tentative d'éviction de l'actuelle présidente de la transition. Francis Mongombe, coordonnateur du groupe de contact des organisations des associations des jeunes.
Ce qui se passe ressemble drôlement à ce qui s'est passé à Djamena. Nous pensons que cela ne peut plus se refaire. S'il faut dorénavant choisir ceux qui doivent diriger la destinée de la République centrafricaine, ça sera aux centrafricains de le choisir.
Pour le collectif des partis politiques de l'ancienne majorité présidentielle, un tel voyage doit impliquer toutes les forces vives de la nation. Laurent Gon Baba, président du parti pour l'Alliance démocratique.
Le collectif de l'ancienne majorité a relevé lundi 18 août qu'une infime partie des forces vives de la nation s'est rendue donc à Brazzaville. Nous avons pensé qu'une telle démarche devait faire en sorte que l'ensemble des forces vives de la nation soit impliquée dans le processus.
Le ton est monté également dans le camp des anti-Balaka. Sébastien Wenezui, le coordonnateur général adjoint convié à Brazzaville, vient d'être suspendu provisoirement selon un communiqué du mouvement. Une décision balayée du revers de la main par l'intéressé qui affirme avoir saisi le coordonnateur général avant son départ.
Le virus de l'Ebola fait de nouvelles victimes chaque jour sur le continent. 84 personnes sont mortes de la fièvre hémorragique en Afrique de l'Ouest, portant à 1229 le nombre de morts causées par l'épidémie dans la région. Le point avec Sarah Diaby.
L'Organisation mondiale de la santé qui a fourni ces chiffres a annoncé aujourd'hui que le nombre de cas d'infection confirmés et probables est passé de 2240, dont 113 nouveaux cas enregistrés en fin de semaine dernière. La majorité des nouveaux décès se sont produits au Libéria où les autorités ont du mal à contenir le virus. Dimanche, 17 patients atteints de la maladie avaient fui leur centre d'isolement en Monrovia, attaqué par des hommes armés. Les 17 patients qui ont fui le centre pour malades d'Ebola ont tous été retrouvés. Ils se sont rendus à pied d'eux-mêmes à l'hôpital JFK, le principal établissement du pays, a déclaré le ministre libérien de l'Information, Lewis Brown. Par ailleurs, 6 professionnels de santé infectés par la maladie réagissent positivement à un sérum expérimental américain. Une grande partie du système de soins de santé mis en place à Monrovia a fermé en raison de craintes d'Ebola chez les médecins et le personnel soignant. Les gouvernements ont ouvert des centres de quarantaine dans diverses régions de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone pour éviter la propagation de la maladie.
La Banque africaine de développement, la BAAD, a accordé une aide de 60 millions de dollars aux pays touchés par l'épidémie du virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest, a annoncé mardi à Abidjan son président Donald Kaberuka. Une annonce faite dans la capitale économique ivoirienne où la BAAD retrouve son siège après 11 ans d'absence en raison de l'instabilité politique. Après un exil à Tunis, la BAAD retourne donc en Côte d'Ivoire, comme nous l'explique depuis Abidjan, Germain Dri.
Délocalisée à Tunis, en Tunisie pour cause des crises, la BAAD, Banque africaine de développement, a retrouvé son siège au bord de la lagune Ébrié. Le retour de cette institution continentale à Abidjan a été salué par de nombreux Ivoiriens. Ernest Yoboué.
Nous apprécions le retour de la BAAD, ce qui signifie la vitalité de l'économie ivoirienne et que la sécurité est de retour. Aujourd'hui, avec le retour, ces emplois reprennent, les boys, les servantes, etc., etc. Ils vont aller au supermarché, ils vont consommer l'eau, l'électricité. Donc, ceci contribue à améliorer l'économie ivoirienne.
Pour concrétiser la reprise de ses activités en Côte d'Ivoire, le président de la BAAD a animé une conférence de presse où il a analysé la situation financière du continent. Donald Kaberuka.
Depuis l'an 2000, notre continent fait des progrès. Le taux de croissance en Afrique subsaharienne, cette année, est prévu à 6,5. Donc, le premier élément de réduire la pauvreté, c'est la croissance soutenue. Mais cela ne suffit pas. Il faut que cette croissance soit partagée, qu'il soit inclusif, qu'il bénéficie à tout un chacun et au-delà de croissance économique, qu'est une transformation de tissu économique.
Partie depuis 11 ans de la Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement a repris ses activités à Abidjan avec environ 1000 travailleurs. Germain Dri, Abidjan, la voix de l'Amérique.
Bientôt le procès dans l'affaire dite des bérets rouges à Bamako. Le juge d'instruction vient de boucler la première phase de l'enquête. Les résultats des tests ADN confirment que les 21 corps des militaires retrouvés dans le charnier de Diago sont bien les corps de bérets rouges proches de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré. Kassim Traoré pour plus de détails.
Cela fait quelques jours que le juge d'instruction Yaya Karambé a communiqué les dossiers de fin d'instruction de l'affaire dite des bérets rouges au procureur de la commune 3. Il revient au procureur de la commune 3 de faire son réquisitoire définitif avant l'ordonnance de clôture du juge d'instruction Yaya Karambé. C'est après que le parquet va fixer la date du procès du général Amadou Aya Sanogo et compagnon. Déjà dans les dossiers transmis au procureur de la commune 3, les tests ADN des corps retrouvés dans les charniers de Diago ont été confirmés par le laboratoire d'analyse américain. C'est mardi 19 août 2014, le juge d'instruction Yaya Karambé quitte Bamako pour un voyage de 3 semaines aux États-Unis sur invitation du gouvernement américain. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
L'Éthiopie est devenue le plus grand pays d'accueil de réfugiés sur le continent africain en raison de la détérioration de la crise au Soudan du Sud, selon le Haut Commissariat pour les réfugiés. L'Éthiopie a ainsi dépassé le Kenya en termes d'accueil de réfugiés et abritait fin juillet près de 630 000 réfugiés.
Pendant ce temps, à Kinshasa a débuté la dernière opération de rapatriement volontaire des réfugiés angolais installés en République démocratique du Congo. Certains d'entre eux vivent en RDC depuis 1962 et le début de la longue guerre d'indépendance contre le Portugal. En tout, 29 000 Angolais seront rapatriés, s'ajoutant aux 76 000 qui sont déjà rentrés au pays depuis 2003. Le premier convoi de 500 personnes est parti ce matin de la gare centrale de Kinshasa. Écoutons Céline Schmitt, porte-parole du HCR en RDC.
Nous sommes presque arrivés à destination à Kinpeche. Une fois à Kinpeche, les réfugiés passeront la nuit dans un centre de transit. Et demain, le transport se fera par bus. Donc demain, ils seront transportés par bus jusqu'à la frontière angolaise et ensuite jusqu'à un centre d'accueil en Angola avant de rejoindre ou regagner leur village d'origine. Il y a un certain nombre de réfugiés aujourd'hui dans le train qui ont passé plus de 40 ans en RDC et qui disent que maintenant le temps est venu, ils veulent rentrer chez eux, l'Angola est leur pays, et ils veulent rentrer.
Céline Schmitt, la porte-parole du HCR en RDC.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il est presque 19h40, temps universel, dans l'actualité, dans le reste du monde. À Gaza, les combats menacent de s'intensifier entre Israël et le Hamas, une situation qui survient au moment même où les représentants des deux camps négociaient la prolongation d'un cessez-le-feu. Le point avec Lola Akomachri.
L'armée israélienne a procédé aujourd'hui à des frappes aériennes dans la bande de Gaza en représailles à 3 roquettes tirées depuis l'enclave palestinienne en direction de la ville israélienne de Beersheba. Aucune victime n'a été rapportée de part et d'autre. Les négociations sur les conditions d'une trêve durable avaient repris ce mardi en Égypte avant de voler en éclats le Hamas qui a violé en premier le cessez-le-feu temporaire conclu au Caire, accuse Israël de traîner les pas. Suite aux derniers incidents, les négociateurs israéliens se sont retirés de la table de discussion alors que la veille au soir, ils s'étaient accordés in extremis avec leur homologue du Hamas sur une prolongation de la trêve instaurée depuis le 11 août. Ce cessez-le-feu est censé expirer ce mardi à minuit.
En Irak, les djihadistes de l'État islamique ont été attaqués ce mardi sur plusieurs fronts par les forces irakiennes, y compris dans l'ex-fief de Saddam Hussein à Tikrit. Dans le même temps, les Nations Unies annoncent une vaste opération humanitaire pour aider 1,5 million de personnes déplacées par les violences.
Le nombre de combattants de l'État islamique a dépassé les 50 000 djihadistes en Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. C'est ce qu'affirme Rami Abdelrahman, le président de cette ONG, qui précise que 6 000 nouveaux combattants ont été recrutés pour le seul mois de juillet.
Retour aux États-Unis, dans la ville de Ferguson, dans le Missouri, qui connaît un semblant de retour à la normale ce mardi après une nouvelle nuit d'émeute qui s'est soldée par 6 blessés par balle et plus d'une trentaine d'arrestations, comme nous l'explique Jean-Roger Billon.
Dans la matinée, le calme était revenu, mais la présence policière demeurait très importante dans le centre de Ferguson. Des volontaires nettoyaient les rues et effaçaient les traces des émeutes de la nuit. Pour établir un nouveau dialogue, le maire de la ville, James Knowles, a annoncé aujourd'hui, selon l'AFP, une série de mesures dont le soutien au programme qui favorise le recrutement de Noirs au sein de la police. La mort de Michael Brown en plein jour dans un quartier résidentiel, alors qu'il n'était pas armé, est à l'origine des émeutes dans cette localité de 21 000 habitants. Pas moins de 3 autopsies ont été demandées par les autorités locales, la famille et le ministre de la Justice, pour tenter de faire la lumière sur les circonstances de la mort du jeune homme. Un porte-parole du procureur du comté de Saint-Louis a indiqué aux médias qu'un grand jury chargé de décider s'il y a lieu de poursuivre le policier devrait étudier l'affaire dès mercredi. Le ministre américain de la Justice, Eric Holder, est attendu demain mercredi à Ferguson pour rencontrer les responsables de l'enquête fédérale sur le meurtre ainsi que des leaders communautaires.
En Ukraine, l'armée gouvernementale affirme avoir découvert 17 corps de civils dans la région de Lugansk, dans l'est du pays, où une colonne de réfugiés a subi des tirs au lance-roquettes attribués ce mardi par Kiev aux séparatistes pro-russes. Plus d'explications avec Jacques Aristide.
Les recherches pour retrouver d'autres corps ont été suspendues du fait des combats qui se poursuivent dans la zone, a indiqué le porte-parole militaire ukrainien et Andriy Lysenko d'ajouter que les tirs ont tué des dizaines de personnes, dont des enfants près du bastion des rebelles à Lugansk. Les insurgés pro-russes ont démenti avoir tiré sur des réfugiés, accusant au contraire les forces ukrainiennes. Sans attribuer de responsabilité, le département d'État américain a condamné l'attaque, appelant les deux parties belligérantes à prendre toutes les précautions pour protéger des vies innocentes. Pour sa part, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a estimé que les informations sur ce bombardement sont très inquiétantes et a réclamé que les civils puissent quitter les zones des combats en toute sécurité. Deux émissaires onusiens, le secrétaire général adjoint aux affaires politiques, Jeffrey Feltman, et la patronne des opérations humanitaires, Valérie Amos, vont se rendre à Kiev cette semaine. De son côté, le Kremlin a annoncé que le président russe Vladimir Poutine se joindra à son homologue ukrainien Petro Poroshenko à une rencontre de haut niveau prévue la semaine prochaine au Bélarus et qui portera notamment sur la stabilisation de l'Est de l'Ukraine.
Enfin, Hamid Karzai exhorte les deux candidats à la présidentielle afghane à mettre fin le plus tôt possible à leur désaccord. Une déclaration faite à l'occasion du 95e anniversaire de l'indépendance du pays. Depuis le second tour de la présidentielle, en juin dernier, ni Abdullah Abdullah ni Ashraf Ghani n'ont pu se départager pour succéder à Hamid Karzai.
Voilà pour le journal. Au micro, Claire Morin-Gibour et Nicolas Pineau, en direct de Washington. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur La Voix d'Amérique.
Nous sommes le mardi 19 août, journée mondiale de l'aide humanitaire. L'occasion de souligner les conditions de travail difficiles des organisations humanitaires. À Bamako, l'événement a été marqué par une cérémonie réunissant tous les acteurs humanitaires au Centre international des conférences, à laquelle a assisté notre correspondant Kassim Traoré.
Cette journée est à sa deuxième célébration consécutive au Mali. Occasion pour le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction des régions nord de saluer les acteurs de ce domaine qui se sont sacrifiés. Amadou Konaté.
Le sacrifice a été respecté. Le dépassement de la stupidité a été réel. Parce qu'en fait, plus fort que la barbarie, l'humanité et la force de l'humain a pris le dessus.
Parmi la panoplie d'organisations humanitaires présentées, il y avait le bureau Mali de l'Organisation mondiale de la santé, Ablaye Cissé.
Depuis la crise de 2012, donc l'OMS a activé vraiment ce qu'on appelle le cluster santé, composé de tous les acteurs humanitaires, toutes les ONG qui œuvrent en matière de la santé. Je trouve au nord comme au sud, sont sous la coupole de l'Organisation mondiale de la santé pour mener des actions humanitaires. Donc célébrer une journée mondiale de l'action humanitaire ne peut être que salutaire.
Le Haut Commissariat aux réfugiés tient son stand à l'exposition de cette journée mondiale de l'action humanitaire au CICB. Camille Fogny, administrateur de prospection au Haut Commissariat pour les réfugiés.
Nous attendons plus de 150 000 réfugiés maliens qui sont à l'extérieur, qui sont revenus, et nous assurons leur retour, leur intégration dans leur lieu de retour, de la même manière que les centaines de milliers de personnes déplacées qui retournent chez eux.
Jakarija Dambélé, chargé de communication à Otcha Mali, bureau de coordination des affaires humanitaires du système des Nations Unies.
On a beaucoup plus de besoins humanitaires et on a de la peine à couvrir ces besoins, non seulement par rapport aux ressources humaines, mais aussi par rapport aux ressources financières.
Cette journée a permis aux participants de visiter une vingtaine de stands des organisations humanitaires nationales et internationales qui se battent sur différents fronts afin d'apporter des solutions aux plus démunis. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Et toujours à propos de la journée mondiale de l'aide humanitaire, le nombre d'humanitaires enlevés en 2013, enlevés, blessés ou tués, a atteint un record, a déclaré Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Des millions de personnes dans le besoin en subissent les conséquences. Nathalie Barge a joint Robert Piper, le coordinateur humanitaire régional pour le Sahel.
Le message, c'est de reconnaître cette force, ces travailleurs humanitaires qui travaillent aujourd'hui, d'ailleurs des héros humanitaires qui travaillent de jour en jour dans des régions très dangereuses, dans des situations très très difficiles physiquement, psychologiquement, qui sont d'ailleurs surtout des acteurs des communautés locales, nationales, qui font du travail extraordinaire avec les ONG, mais aussi avec les services étatiques. Et moi-même, je voyage beaucoup dans les régions et je vois le travail aussi de ces acteurs étatiques. Mais deuxièmement, un message de s'assurer qu'il y a quand même une protection pour ce genre de travail. L'année dernière, on a vu une augmentation dramatique de fatalité des travailleurs humanitaires. Au-dessus de 155 de nos collègues ont perdu leur vie. 134 ont été enlevés. 170 ont eu des blessures très graves. Et je répète, surtout, c'est des nationaux. Ce n'est pas nécessairement des expatriés. Déjà en 2014, on a perdu 79 de nos collègues, surtout en Syrie, en Afghanistan, au Soudan. Du sud du Soudan, c'est des chiffres élevés, c'est une honte, il n'y a pas un respect pour leur facilité de leur travail.
Qu'est-ce que vous auriez à dire sur les questions de déplacement, notamment en Irak, en Syrie? Est-ce que les Nations Unies et leurs partenaires disposent de suffisamment de financement pour gérer ces crises?
Je sais que récemment, on a dépassé quand même 50 millions de personnes déplacées dans le monde. C'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est un chiffre extraordinaire. Ça met des pressions très importantes sur la capacité des bailleurs de fonds de soutenir un travail humanitaire à une telle échelle. Donc, nous nous trouvons tous au Sahel, au Soudan, en Somalie, en Syrie, en Afghanistan, en Irak, avec des grands déficits financiers, des grands besoins. On arrive à des besoins au-dessus de 17 milliards de dollars pour le monde en 2014, le chiffre le plus élevé jusqu'à présent. Je dois reconnaître aussi que les gouvernements qui nous soutiennent, surtout la communauté européenne, le gouvernement des États-Unis, les gouvernements nordiques, etc., le Japon, eux aussi trouvent de plus en plus de difficultés difficultés à arriver à soutenir une opération. L'Arabie saoudite a effectivement donné un don très important à l'opération de l'Irak. Nous comptons sur beaucoup de nouveaux bailleurs des pays émergents à partager un peu ce fardeau financier.
Le coordinateur humanitaire régional pour le Sahel de l'ONU, Robert Piper.
Il est 19h50, temps universel au Nigeria. Boko Haram prend avantage de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, alors que le gouvernement s'emploie à contenir les dizaines de cas de fièvre hémorragique signalés dans le sud du pays. Les insurgés islamistes opérant dans le nord-est multiplient les enlèvements de villageois qu'ils obligent à combattre à leur côté, comme nous l'explique Michel Joseph.
Rien que la semaine dernière, une centaine d'otages de Boko Haram ont été libérés à la frontière par les forces de sécurité tchadiennes. Mais on ignore combien sont encore aux mains des militants islamistes. Ces derniers obligent souvent leurs victimes à combattre dans leur rang, explique James Wuye, un pasteur du Nord Nigeria qui conseille les anciens otages.
These young people...
Ces jeunes gens là-bas dans la forêt sont sans espoir. Leur seul espoir est de mourir. Nous devons les sauver. Nous devons avoir pitié de tout le monde, d'un camp comme de l'autre. La violence affecte les victimes perçues et leurs agresseurs. Les otages renforcent militairement Boko Haram, qui tente maintenant de contrôler des territoires, explique de son côté Yann Saint-Pierre du groupe de consultants Mosecon, basé à Berlin. Pour ce faire, le groupe islamiste a recours à des tactiques utilisé par Joseph Kony en Ouganda et Charles Taylor en Sierra Leone pour gagner la loyauté de leurs otages, fait remarquer l'expert. En leur faisant tuer leurs propres parents et leurs propres familles, ils les placent dans une position de non-retour. Les victimes sont psychologiquement brisées pour avoir tué leurs parents, tué ceux qui leur ont donné la vie, souligne Yann Saint-Pierre. La seule famille à laquelle va leur loyauté, dit-il, c'est le groupe terroriste qui les a kidnappés. À preuve, au moins 9 personnes ont été tuées le mois dernier dans des attaques suicides menées par des femmes au nord Nigeria. 2 filles ont été arrêtées, dont une de 10 ans portant une bombe. Dans les états de l'Adamawa et de Borno, des sources locales disent que Boko Haram occupe et contrôle des villes et des villages, tuant quiconque s'y oppose. Les forces armées ne toléreront pas une telle situation, a mis en garde leur porte-parole. L'armée nigériane ne concédera aucune portion de ce pays aux terroristes ou à tout autre groupe du genre, a averti le général Chris Olukolade. Toutefois, si Boko Haram continue de terroriser les villageois, il peut contrôler la région sans avoir besoin de hisser son drapeau.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, le spectre du racisme refait surface aux États-Unis après la mort d'un jeune Africain-Américain tué par un policier blanc à Ferguson. Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Une date à retenir à présent pour tous ceux qui nous écoutent au Bénin.
Le 17 juin 2015 sera la date butoir décrétée par les autorités pour le passage de l'analogique au numérique, un événement qui s'annonce coûteux pour les populations comme pour les organisations de presse qui devront s'équiper de nouvelles télévisions compatibles. Reportage depuis Cotonou de notre correspondant Peggy Ludovic Dagba.
Pour avoir force de loi et s'imposer à tous, le gouvernement béninois a introduit à l'Assemblée nationale une proposition de loi qui contient les dispositions nécessaires à une bonne transition. Ce texte de loi vient d'être voté par les députés béninois qui, par cet acte, dotent désormais le Bénin d'un cadre législatif pour la migration. Le ministre béninois de la Communication, Komi Kouché, nous expose ici ses avantages.
C'est la loi qui ouvre la voie à la concrétisation de la révolution. Normalement, à partir du 31 juillet passé, il y a des types d'équipements qui ne sont pas compatibles au numérique. Or, il n'est pas normal que nous laissions nos populations continuer d'acheter, par exemple, des télévisions qui, d'ici un an, ne seront plus utilisables.
La réalité du numérique en 2015 fera saigner les bourses des populations qui devront acquérir de nouveaux postes récepteurs radio et télévision adaptés aux disponibilités techniques en la matière. Antoine est un importateur de matériel électroménager de dernière génération.
Oui, actuellement, il n'y a plus de plasma, il y a LCD, il y a LED, il y a D3.
Et quels sont les coûts?
En LED, maintenant, sur le marché, ça fait 420 000. Bon, l'autre, là, ça fait 250-260 000 LCD, là. La D3, ça, là, tu vas trouver jusqu'à 850 000, 42.
À ces coûts, les Béninois réagissent diversement.
Le coût de l'écran plasma aujourd'hui au Bénin, nous savons, c'est dans l'ordre de 400, 500, 600 000. Dans ces conditions, le passage de l'analogique au numérique risque de nous rendre encore analphabètes parce que sans poste téléviseur, vous savez que l'on est analphabète. Là, on nous oblige à passer à la pauvreté carrément. Parce que nous, on n'a pas 600 000 pour acheter des écrans plasma.
Que ce soit le changement de télévision pour remplacer la télé, le numéro que vous avez en train de dire, tout ça là, ça ne rentre pas dans la ligne de conduite du Béninois moyen. Ce que nous aimerions que le gouvernement fasse, c'est de prendre en charge cette histoire-là.
Par rapport à l'évolution, on est obligé de s'adapter. Si ça vaut le coup ne nous aime pas parce qu'on veut suivre l'évolution. Tout le monde veut avoir un plasma chez lui. Tout le monde veut avoir toutes les images chez lui. Il est obligé de payer pour ça.
Selon le ministre béninois de la Communication, le gouvernement auquel il appartient accompagnera les populations. C'est donc la veillée d'armes en République du Bénin pour réussir à passer de l'analogique au numérique sa heure majeure. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour La Voix de l'Amérique.
Et la passeport maintenant, et nous accueillons Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Nicolas Pinault, bonsoir Claire.
Évidemment, nous démarrons avec le football en Europe. Ce soir, les barrages allés de la Ligue des Champions.
Oui, donc les matchs sont en cours en ce moment. Les Autrichiens de Salzbourg reçoivent les Suédois de Malmö. Steaua Bucarest de la Roumanie affronte Ludogorets de Bulgarie. Besiktas de Turquie affronte Arsenal, les Anglais donc. FC Copenhague joue contre le Bayer Leverkusen. Et Naples affronte Atlético Madrid. Bilbao.
Et on reparle encore une fois de Luis Suarez qui a promis qu'il ne mordrait plus.
Oui, l'attaquant uruguayen interdit de compétition jusqu'en octobre pour avoir mordu un adversaire a déclaré avoir consulté, ce sont ses expressions, des professionnels adaptés après son vilain geste et a promis qu'il ne récidiverait pas avec le FC Barcelone, son nouveau club présenté à la presse pour la première fois depuis son transfert le mois dernier de Liverpool. Une opération que le Barça a chiffrée mardi à environ 80 millions d'euros. Suarez a dit vouloir oublier le passé. Et la polémique naît de son agression à l'encontre de l'Italien Giorgio Chiellini à la Coupe du Monde au Brésil. La FIFA a par ailleurs recommandé à la Russie, qui organisera le Mondial 2018, de réduire le nombre des villes hôtes à 9 au lieu de 11. C'est ce que rapporte aujourd'hui le ministre russe des Sports, Vitaly Mutko.
Et nous finissons avec la Colombie, avec le sélectionneur José Pekerman qui a prolongé son contrat.
Oui, le sélectionneur argentin de la Colombie a signé un nouveau contrat de 4 ans à la tête des Cafeteros. Le précédent contrat de Pekerman, âgé de 64 ans, est arrivé à la tête de la sélection colombienne en janvier 2012, avait expiré le 31 juillet. Let me see you move.
Et ils ont raison, Michael Jackson et Justin Timberlake en featuring Love Never Felt So Good. Voilà, sur ces notes de musique que va s'achever notre émission Le Monde aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir.
Merci Nicolas. Claire Morin-Gibourg et Nicolas Pinault vous ont accompagné ce soir dans ce studio. Merci de votre fidélité à nos programmes. Je remercie également à la console Lionel Gaïma. Bonne soirée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.